Alors, vous aurez peut-être remarqué que l'Annonciation est très souvent fêtée au cours du carême. En fait, c'est pour, peut-être pour nous dire qu'elle n'est pas déconnectée du temps liturgique, cette fête-là. C'est pas une parenthèse ou une relâche dans le carême. Vous voyez, il ne faut pas le prendre comme ça. Mais peut-être que cette fête de l'Annonciation, elle est là pour nous aider à mieux vivre ce temps liturgique, ce temps que nous vivons dans l'Église. En fait, le carême, c'est une longue préparation à Pâques. Une longue préparation, on dira à la fin, c'est un entraînement. Et en fait, l'Annonciation, c'est exactement, c'est l'événement par excellence qui a été préparé. Le carême nous prépare à Pâques. L'Annonciation, c'est l'événement qui a justement été préparé par Dieu depuis des siècles. En fait, c'est l'incarnation, c'est l'heure de l'incarnation, c'est un moment décisif, c'est l'événement charnière dans l'histoire du salut. Et en fait, Dieu, il a envoyé des prophètes, il a envoyé des signes, et puis c'est le moment où il dit, en fait, je viens moi-même, je me fais homme, je viens vivre cette vie des hommes. Et en fait, l'évangéliste Saint-Luc, il se dit, mais ça, c'est tellement important de voir que tout ce que cet événement-là, il est un moment charnière dans l'histoire du salut, je vais le mettre dans mon récit de l'Évangile. Et il va le signifier d'une manière un peu particulière, il va dire le sixième mois. Le sixième mois par rapport à quoi? Par rapport à la conception de Jean-Baptiste. Et ensuite, il va énumérer sept noms qui vont être importants dans l'histoire du salut. Et il va dire, ben voilà, c'est comme ça que Dieu a préparé cet événement, ce jour où tout a basculé. Il va dire, l'ange Gabriel, premier nom, fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, à une jeune fille vierge accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph, et le nom de la Vierge était Marie. Marie qui arrive, c'est le septième nom. Le sept, il y a toute la symbolique. Et en fait, on a Marie comme l'actrice principale de ce récit, qui arrive en fait à la fin de la scène. C'est peut-être pour nous dire, voilà, on parle de Jean-Baptiste, on parle de David, on parle de Joseph, Marie arrive tout à la fin pour nous dire qu'en fait, on a un concentré de l'histoire du salut qui est donné ici. En un verset, on a toute l'histoire du salut qui est résumée. Et en fait, c'est le sens des longues préparations de Dieu. En fait, Dieu, il a le temps. Et donc, il prend son temps. Il est patient. Nous, on aime bien que tout se passe très très vite, hein, que la conversion se soit très très rapide. Ben Dieu, non. Dieu, il a le temps et il prend son temps. On a ça avec l'histoire d'Abraham. Abraham, c'est celui qui reçoit cette promesse de Dieu, voilà, tu vas avoir une descendance. Et donc, ben, comme la descendance, elle ne vient pas tout de suite, et ben, il va provoquer un peu les choses. Il va dire, mais en fait, ma descendance, c'est mon neveu Lot. Mais non, c'est pas Lot. Alors, il va aller vers la servante de Sarah, et il va avoir Ismaël avec cette servante. Mais en fait, non, Abraham, tu vas trop vite. Sois plus patient. Ce sera avec Sarah aussi que tu auras cette descendance. Et donc, on voit en fait ce long chemin que Dieu prend pour convertir des libertés. Une liberté, ça prend du temps à se convertir. Sinon, on serait des marionnettes. On ne serait pas des hommes et des femmes libres. Hein, on serait des marionnettes entre les doigts de Dieu. Donc, une liberté, ça prend du temps à convertir. Il y a aussi Nazareth qui nous parle de ça, hein, de ces longues préparations de Dieu. Nazareth, c'est un trou paumé. C'est l'endroit idéal pour une vie cachée. 30 ans sur 33 ans. 30 ans de vie cachée sur 33 ans. C'est long. Et pourtant, il est sauveur dans cette vie cachée. En fait, il a fallu peut-être ce temps, ce long temps de Nazareth, ce long temps de préparation de vie cachée pour vivre un ministère public qui soit fructueux, qui porte tout son fruit de salut. Voilà, le premier point qu'on retire de ce premier verset du récit, c'est qu'en fait, Dieu y prend son temps. Et donc, il y a les longues préparations. Et donc comment est-ce que va se dérouler cette histoire du salut? En fait, ça va être un enchaînement de oui. La deuxième lecture parle du oui de Jésus. Il va dire « Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté. » C'est un oui qui permet le oui de Marie. « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et on sait que le oui de Marie, eh ben, quelque part, il a permis le oui de Joseph, qu'on a entendu il y a une semaine, dans cette annonciation à Joseph qu'on a entendu le 19 mars, et qui prend justement Marie chez lui. Et donc de proche en proche, vous voyez, on fait 2000 ans d'histoire, et en fait, ce oui de Jésus, il permet le oui de Marie, il permet le oui de Joseph, il permet le oui de tous les saints, il permet notre oui à nous. C'est mon oui qui permet ton oui. Vous voyez, nos oui respectifs, ils sont confiés les uns aux autres. C'est-à-dire, mon oui de prêtre, il est confié à votre oui de laïc, il est confié à votre oui de consacré. Et votre oui de laïc et de consacré, eh bien, il m'est confié à moi. Et en fait, nous sommes confiés les uns aux autres. Et la fidélité d'un membre de la communauté va entraîner la fidélité des autres. C'est ça que ça veut dire. Et on le voit à travers cette petite histoire. Il y a eu le oui de David à un moment donné. Il y a eu le oui de Jean-Baptiste, le oui de Zacharie, le oui de Joseph. Et bien le oui de Marie. Et il y aura à un moment donné mon oui à moi. Et pareil dans nos histoires, il faut des petits oui pour donner un vrai oui à la fin. Vous voyez, c'est parce que Marie s'est toujours disposée dans une vie de prière, dans une vie de contemplation, dans des petits oui quotidiens, qu'à un moment donné, elle est capable de dire ce oui, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Elle n'a pas eu un coup comme ça d'Esprit Saint, hein, un coup de poker, « Tiens, je vais parier ma vie sur Dieu. » Ben non, non, non. Elle a déjà dit oui dans son cœur. Et c'est pour ça, quand elle rencontre l'ange, quand elle reçoit l'ange chez elle, elle est capable de dire oui. C'est parce que Jésus dit oui en s'incarnant, « Me voici, je suis venu pour faire ta volonté », qu'il sera capable de dire au moment décisif de l'agonie à Gethsémani, « Non pas ma volonté, mais ta volonté. » C'est ta volonté qui doit se faire. Vous voyez, je prends l'exemple de Saint-Maximilien Kolbe. C'est parce qu'il a dit des petits oui quotidiens qu'à un moment donné, au moment décisif, il est capable de donner sa vie à la place d'un père de famille. Et donc, c'est nos petits oui quotidiens qui vont conditionner le grand oui du don de notre vie à un moment donné. Et ça fait carême. Les petits oui que je pose, les petites pierres que je pose sur le chemin du carême, qui vont m'acheminer à Pâques, et ben c'est ça. Ça, c'est le lien entre l'Annonciation et le carême. Alors, comment est-ce que Marie a préparé son oui? Par des petits oui quotidiens, oui, d'accord. Mais certainement en méditant cette parole de Dieu. Vous voyez, c'est quand même étonnant qu'on voit Marie et Jésus faire référence au même livre de la Bible. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. Donc si Jésus et Marie discernent leur vocation, trouvent la force de répondre oui à Dieu en méditant la parole de Dieu, ça veut dire que nous aussi, c'est en méditant cette parole de Dieu qu'un jour on répondra oui, qu'un jour qu'on posera ces jalons, ces petits oui au quotidien, et qu'on aura cette force de dire oui au don de toute notre vie. Donc peut-être une petite décision, ben c'est peut-être de recevoir ma vie, c'est peut-être de recevoir ma journée de la parole de Dieu. Peut-être que je peux prendre la décision de ne plus jamais venir à la messe sans avoir lu l'évangile du jour. Ça ne veut pas dire que si vous n'avez pas lu l'évangile du jour, vous ne devez pas venir à la messe le dimanche. J'entends bien, d'accord ? Mais ça veut dire que, vous voyez, enfin, je parle pour moi, hein, mais le prêtre, il passe des heures à préparer une homélie. Et moi, si je prends que 5 minutes à lire l'évangile du jour, eh bien, j'ai préparé mon homélie, j'ai préparé le dialogue. Vous voyez ? Peut-être que le père Paul et le père Benoît sont plus rapides que moi. Vous voyez, je suis au début. Donc voilà, je peux prendre une décision vraiment pour me plonger dans cette parole. Marie et Jésus se sont plongés dans cette parole et c'est ce qui leur a donné la force de répondre oui au moment décisif. Voilà, que le Seigneur, à travers cette fête, nous donne de nous replonger dans cette parole. Amen.